Donc, nous abordons aujourd'hui la deuxième partie du cycle confié à Bernard Eisenschitz. Donc, après avoir analysé il y a un mois le film d'Edgardo Kozarinski, La guerre d'un seul homme, aujourd'hui, c'est un montage de 5 courts-métrages que Bernard Eisenschitz vous a préparé. Donc, je ne vais pas m'étendre plus. Ça s'appelle Le sang des bêtes, mais vous avez pu remarquer que le film n'est pas projeté, le fameux franchis n'est pas projeté. J'espère que vous ne serez pas déçus. Voilà, donc je vais laisser la parole à Bernard Eisenschitz.
Bonsoir, merci d'être là. Je suis un peu confus devant votre présence, étant donné que pour répondre à une question qui n'a pas été posée ce soir, mais qui a été posée la dernière fois, on m'avait demandé, Roger Rotman m'avait demandé pourquoi j'avais indiqué dans le dépliant, pourquoi le dépliant indiquait que j'ai indiqué dans l'ordre traducteur, historien du cinéma, etc. La réponse étant bien entendu que je me considère d'abord comme traducteur, que c'est à ça que j'ai passé la plus grande partie de ma vie, et en second lieu seulement comme historien du cinéma, je pense que, ou peut-être chroniqueur du cinéma, c'est en quoi j'ai, domaine dans lequel j'ai travaillé, et j'avais pensé, quand cette proposition de programme dans Regard Critique est arrivée, j'ai eu l'idée d'essayer quelque chose d'un peu différent des autres programmations que j'avais pu faire ou des autres travaux d'histoire du cinéma que j'avais pu faire. Ça semblait assez simple il y a un mois puisque nous avions un film d'Edgardo Kozarinski, La guerre d'un seul homme, qui est un film dont la complexité suffit à elle-même. Ici, nous sommes dans une situation un petit peu différente, ce qui fait que j'ai amassé des notes, contrairement à mes habitudes, que je regarderai ou non. Et l'idée de cette séance, comme de l'ensemble de cette programmation, est précisément de rapprocher ce qui n'a pas lieu d'être rapproché ou ce qui n'a certainement pas été rapproché par les commentateurs ou les historiens du cinéma. Commentateurs du cinéma auxquels je dois énormément et je pense qu'au cours de des 5 séances qui restent, j'aurai encore l'occasion de parler de gens comme Jay Leda, Georges Sadoul et un certain nombre d'autres qui ont formé aussi ma manière de voir et aussi mon envie de faire ces montages où on va donc passer du coq à l'âne, où j'essayerai d'éviter les généralités parce que ce n'est pas du tout mon intention. Je suis parti de cette idée très très simple. Excusez-moi de le répéter pour ceux qui étaient là la dernière fois. Enfin, je suis parti de cette idée très très simple que Godard dit à Jean Narboni dans les conversations qui ont été projetées il y a quelques mois, qui est même quand on ne savait rien sur le cinéma, on savait que le documentaire et la fiction c'était la même chose. Donc on va zigzaguer aujourd'hui entre des faux documentaires, des documentaires de réalisateurs, de metteurs en scène de fiction et même de théâtre, des essais et des objets indéfinissables. En fait, la séance est faite pour ces 3 objets indéfinissables ou qu'on n'en finit pas de définir, qui sont soutenus par 2 autres petits films. C'est la raison pour laquelle c'est une séance très courte. Oui, il y a à peine plus de 30-35 minutes de projection et je vous suis d'autant plus reconnaissant d'être ici pour les pour les voir. Voilà, c'était... c'était cela, voilà, c'était l'idée du... d'un peu plus les aventures de la non-fiction que qu'est-ce que le documentaire ou même ce que c'est que ou même ce que c'est qu'un non-documentaire, puisque là aussi c'est quelque chose qu'on sait que dans tout documentaire, là c'est peut-être que c'est André Labarthe aussi qui a beaucoup développé cet aspect-là du de l'entrelacement, de l'interpénétration entre ce qui peut être la non-fiction et la fiction. Donc voilà, j'ai été parti dans l'annonce de deux choses qui étaient d'une part que le cinéma était une sorte de biopsie, que c'était les premiers spectateurs de cinéma avaient commenté les films de Lumière en disant « La mort est vaincue ». Et ça avait même été le sujet d'un roman qui avait précédé le cinéma, « Les Futurs », dont le héros est Thomas Edison, inventeur multiple, inventeur de l'électricité, fondateur d'un empire industriel, économique, considérable, qui sera aussi une partie... L'un de mes héros ou anti-héros ce soir. Donc le futur imaginait la reproduction de la vie à l'aide du cinéma. Et l'autre extrême, ou plutôt la réponse à cette phrase des premiers spectateurs étant évidemment celle qui s'impose, qui est la phrase de Cocteau sur le cinéma, c'est la mort au travail. Bon, tout cela étant assez bien connu, j'avais eu la curiosité de voir ce que pouvait être la mort au travail de manière tout à fait littérale, tout à fait plomb-plomb dans ce programme. Et de me poser la question de comment peut-on montrer la mort dans le cinéma de non-fiction, ce qui pose d'autres problèmes que dans le cinéma de fiction, qui est lui, bien entendu, qui n'a pas eu de problème pour représenter la mort, puisqu'il s'est fondé en gros sur ce qu'avait fait le théâtre pour représenter la mort pendant très longtemps, et c'est de ces premières périodes qu'on va parler. Voilà, donc ces terrains restent assez énigmatiques pour moi, et en particulier ces premières années du cinéma qui vont être représentées dans les deux premières bandes montrées, qui font l'une 3 minutes et l'autre, je crois, 1 minute, enfin quelque chose d'extrêmement bref. Plus on se pose ces questions, plus on regarde ces films, soit dans des rétrospectives, soit dans des éditions DVD qui apparaissent avec beaucoup de richesse, plus on s'aperçoit que les 15 premières années du cinéma, c'est-à-dire... on va se donner comme date d'arrivée 1908, les premiers films de Griffiths qui changent tout de suite la donne, de 1893, donc les premiers essais d'Edison, 1894, le début de la véritable production Edison, à 1907, on s'aperçoit que ce sont des périodes d'une richesse considérable, d'une richesse même extraordinaire, difficile à voir parce que on voit, comme dans toutes les périodes du cinéma, on les voit sans l'esprit critique ou l'esprit cinéphilique qui a dominé quand même notre formation du cinéma. Et puis on les voit en masse, ce qui est très fatigant. On a peu de repères, ce qui a été indiqué comme les films pivots, etc. ne sont pas nécessairement les films qui peuvent compter pour nous. Voilà, mais en même temps, on s'aperçoit qu'il propose un modèle pour toutes les questions qui ont pu se poser ensuite au cinéma. Et qu'en même temps, il propose d'autres solutions qui, depuis, ont été plus ou moins étouffées. ou écarté avec la création d'un langage, en gros, qui était modelé sur le, disons, sur l'art romanesque du XIXe siècle, enfin, ce qui a été la grande force de Griffiths. Si, je pense qu'Eisenstein a dit, ou s'il l'a pas dit, je lui fais dire volontiers, mais je crois qu'il l'a dit dans son article, dans son texte sur Griffiths, que l'important de Griffiths, c'est qu'à la fois, il reprenait entièrement le roman du XIXe siècle et que, par là même, il le dépassait et qu'il allait au-delà et qu'il créait, qu'il produisait quelque chose d'autre. Ce sur quoi, évidemment, on peut ne pas être d'accord. Enfin, si on admet ce point de vue, on peut ne pas être d'accord avec les travaux très, très intéressants de Noël Birch sur les premières années du cinéma, qui vont dans un autre sens auquel je reviendrai aussi, qui sont sur la possibilité d'un art populaire qui a été étouffé par un embourgeoisement arrivant en 1908, autour de 1908, et par une crise de la fréquentation aux États-Unis qui nécessitait de faire appel à un autre public, public bourgeois, et par la sédentarisation du cinéma en France. Bon, tout cela... Encore une fois, bon, pour ceux qui connaissent ces questions, je m'excuse de les répéter, mais donc le premier film que je vais vous montrer est un film d'Edison, ou plus exactement est un film de la production Edison. Il est assez difficile de... J'ai un peu cherché quand même, il est assez difficile de déterminer jusqu'à quel point Edison était directement responsable pour sa production cinématographique, parce qu'Edison a été un mythe très très tôt, bien avant de s'intéresser au cinéma, et parce que ce qu'il a écrit sur lui-même, son autobiographie, ses notes, ses déclarations publiques, l'ont toujours présenté comme un homme qui ne s'intéressait qu'à son laboratoire, y compris tous les textes hagiographiques qui abondaient déjà à l'époque, d'où le roman de Villiers de l'Isle-Adam, L'Ève future, qu'il prend pour héros en 1880, je crois, donc 3 ans avant ses premières recherches sur l'image animée. Oui, donc il est assez difficile de voir dans quelle mesure, apparemment, il s'est assez rapidement désintéressé du cinéma, tout en défendant farouchement ses brevets, sa propriété, et en intentant des procès de tous côtés, soit en intentant des procès à ceux qui empiétaient sur les brevets qu'il avait déposés, soit en achetant des inventions faites par d'autres, mais qu'il achetait en leur disant que le fait de mettre son nom sur ses inventions leur donnait une bien plus grande valeur marchande. En dehors de ça, il paraît assez certain qu'il ne s'est plus du tout occupé de la production, mais qui était néanmoins une production qui dépendait de l'entreprise Edison. Voilà, donc le film que nous allons voir est un film de 1901. Le premier film que nous allons voir est un film de 1901 qui a été tourné très exactement le 29 octobre 1901 et qui s'appelle, le titre donne assez nettement le contenu du film, Exécution de Czolgosz, virgule, avec un panorama de la prison d'Auburn. Alors, l'exécution de Czolgosz, c'est l'exécution de l'assassin du président McKinley, anarchiste d'origine européenne, polonaise probablement, on ne sait pas exactement, ou biélorusse. Enfin. Et panorama de la prison d'Auburn, c'est ce qu'on appelait à l'époque un panorama. Je pense que le terme avait été inauguré par les opérateurs lumière ou par la production lumière. Un panorama ne représentait pas un panorama comme au XIXe siècle, on allait au centre, dans des formes de pré-cinéma, on allait au centre d'un panorama peint qui pouvait représenter soit un paysage, soit par exemple une scène de bataille avec des éléments primitifs d'animation, d'éclairage, etc. Panorama, dans le langage des frères de la production Lumière, ça veut dire un travelling descriptif. Le premier panorama, bon, c'est très connu, le premier panorama est un travelling qui a été fait plus ou moins par hasard, enfin, en tout cas, c'est ce que veut la légende, qui a été fait par hasard à Venise par l'opérateur Promio mettant sa caméra sur une gondole. Voilà. Donc, le titre du film indique bien ce qu'il est et la double partie qui compose le film. Je pense qu'on peut le voir avant d'en dire davantage, me semble-t-il. Donc je pense que on peut demander à l'opérateur d'y aller. Merci. Voilà. Alors, autant pour moi ou comment on écrit l'histoire. Je n'avais revu qu'un extrait du film avec la fin du deuxième plan extérieur de la prison. Donc, bien entendu, il ne s'agit pas de travelling, mais il s'agit de deux panoramiques. Voilà pourquoi il faut toujours revoir en entier la chose. Alors, ce film me pose un certain nombre d'énigmes et par où commencer? Le film, là, je vois par exemple que le copyright est du 9 novembre et l'exécution de Czolgosz a eu lieu le 29 octobre. Donc là, il y a une grande rapidité, une rapidité de type actualité à diffuser un film qui représentait l'actualité. En même temps, que s'est-il passé ce jour-là? Les deux responsables de la production d'Edison étaient White, j'ai oublié son prénom, James White, et Edwin S. Porter, beaucoup plus connu, qui a laissé son nom dans l'histoire du cinéma pour un certain nombre de films, surtout entre 1903 et 1908. Porter était depuis un an responsable de la production, tandis que White était responsable du studio. Alors, contrairement à ce que les historiens ont dit, les films Edison sont allés très très vite. On parle toujours de la production Edison comme étant une production enfermée dans un studio. Ce n'est vrai que pour les toutes premières années, très très rapidement, dès l'arrivée des films Lumière ou dès le détournement de copies des films Lumière, Edison a acheté une caméra qui permettait des prises de vue extérieures, y compris des prises de vue en mouvement, comme ces deux panoramiques. Donc, ce qui s'est passé le 29 octobre, c'est que Porter et White sont arrivés à la prison d'Auburn dans l'État de New York et pensaient très simplement entrer et filmer l'exécution. Ils ont été refoulés à la porte puisque les participants à une exécution sont comptés, je ne sais pas exactement selon quelles règles. Je sais pour la prison de Sing Sing, mais pas pour celle d'Auburn. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de membres du corps judiciaire, il y a quelques journalistes, il y a quelques citoyens. Ce qui est indiqué par la fin du film, où un des participants se retourne vers la caméra. La caméra se trouve à la place des témoins de l'exécution. Donc une exécution est quelque chose qui n'est pas ouvert au public, mais qui est ouverte à un certain nombre de témoins, comme c'est toujours le cas, comme vous pouvez le voir encore dans les derniers films. Il y a un film de Clint Eastwood où on assiste à une exécution. Donc c'est tout récent. La procédure reste la même, fondamentalement. Donc ça c'est une première chose. La caméra comme substitut des témoins. La deuxième chose qui m'avait évidemment frappé et qui nous ramène un petit peu à la séance du mois dernier, c'était donc évidemment il s'agit d'un faux documentaire, c'est facile à voir, qui a sans doute été perçu comme un véritable documentaire. Il y a eu un seul article, semble-t-il, ou qui était une publicité sur le film, qui a parlé d'une imitation réaliste et qui insiste sur le fait que les vues de la prison ont été prises le jour de la véritable exécution, pour insister évidemment sur l'authenticité de l'acte de filmer. Mais dans cette publicité du 16 novembre, il n'est pas question de prétendre qu'il s'agit d'un véritable documentaire. Alors, la jonction des deux films peut être vue de deux manières. D'une manière commerciale, c'est-à-dire que Edison louait les deux films séparément. On pouvait louer l'exécution seule et les exploitants pouvaient louer l'exécution avec le panorama, ce qui est une procédure qui remontait en tout cas à 2 ans plus tôt à l'affaire Dreyfus de Méliès, qui est une fiction déclarée comme fiction et tournée d'ailleurs dont certains plans d'ailleurs imitent les actualités, mais c'est une fiction déclarée que Lumière louait en 6 ou 7 films, je ne sais plus combien en avait. Donc on peut avoir deux points de vue qui sont comme on peut avoir pour ce film-ci, on peut avoir deux points de vue qui sont, d'une part, il s'agit de deux films différents. Les panoramas étaient des choses qui pouvaient intéresser le public en soi. La vue animée d'un lieu est quelque chose en soi qui mérite d'être vu. D'autre part, l'exécution était une pièce à sensation en elle-même, et on peut aussi le voir de manière rétrospective comme ce à quoi je tendrais, c'est-à-dire à voir le film de Lumière, le film de Méliès sur l'affaire Dreyfus comme un film unique, pensé comme un seul film découpé. Et on peut voir également ce film-ci comme un seul film, comme nous venons de le voir, et pensé comme découpé, donc en trois épisodes, mais 4 plans, 2 plans de l'extérieur de la prison et 2 plans de fiction. Les plans de l'extérieur de la prison se portant garant, comme le dit d'ailleurs cette publicité, se portant garant de l'authenticité du tournage. On peut de toute façon se dire que Porter découvrait un point fondamental du cinéma, c'est-à-dire que 2 morceaux de pellicule joints l'un à l'autre produisent un effet qui n'est pas l'effet produit par chacun de ces morceaux de pellicule séparément. C'est ce qui a été à l'origine de toutes les différentes conceptions du montage. En même temps, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce qu'on a vu et dans ce que j'ai toujours vu. Je ne sais pas si les copies viennent de différentes sources ou non. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un petit fondu entre les extérieurs et le plan du couloir de la mort. Donc on peut penser quand même que le film tel qu'il a été déposé au copyright, puisque c'est de là que ça vient, c'est de là que viennent les copies, a été pensé et a été conçu comme un seul film et que ce n'était que dans une visée commerciale qu'il était loué comme deux. Donc on est là dans cette idée que cette idée qui est à l'origine et du découpage et surtout du montage qui a été cette découverte qu'on fait séparément tous les pionniers, les opérateurs et les premiers cinéastes. On le trouve dans certains films de Billy Bitzer, qui a été ensuite l'opérateur de Griffiths. Dans un film de Bitzer, on trouve tout à coup, en 1902-1903, un raccord dans l'axe, qui est quelque chose dont chacun sait que Griffiths est censément l'inventeur, et précisément dans un film que Malraux a décrit dans des termes lyriques, en disant, ému par la légende veut qu'ému par la beauté d'une de ses actrices, Griffiths, et l'idée de rapprocher la caméra d'elle, inventant ainsi le découpage, etc. On le trouve dans un film bien antérieur de Bitzer, qui était le bras droit, l'opérateur de Griffiths. Mais on le trouve aussi avant, et c'est là qu'on rejoint un peu l'idée du film de compilation dont je parlais le mois dernier. On le trouve aussi avant dans un témoignage, alors là dans une histoire d'imposture un peu tragicomique, ou plutôt humoristique qu'autre, qui est un des opérateurs Lumière, Francis Doublier, envoyé en Russie pour filmer le couronnement du tsar, et d'autre part pour présenter le cinématographe Lumière à travers la Russie d'alors. Et se promenant en Russie, où il assiste censément à des pogroms à Kichinev et où à Kiev, raconte-t-il, se trouve inventé le film de montage et par là même le montage. J'aurais dû vous le lire il y a un mois, mais tant pis. Je vous le lis maintenant. Donc Doublier, interrogé peu après-guerre à Kiev, où les colonies israélites étaient nombreuses, on s'intéressait vivement à Dreyfus. On me demanda de montrer au cinéma les principales scènes de l'affaire. Or, il n'existait pas de film sur ce sujet. Que faire ? Donc on est en 1899, époque du procès de Rennes. Je n'hésitais pas longtemps. Je me procurais les photographies d'une revue militaire dans une petite ville de France. En tête marchait un capitaine que je baptisais Dreyfus. Puis venait un palais de justice qui était censé être le tribunal de Rennes. Enfin, un navire de guerre était le bâtiment à bord duquel se trouvait le condamné. Tout marcha très bien pendant quelque temps. Notre salle était toujours remplie. Cependant, un jour, je reçus la visite d'un professeur d'université qui me fit observer que mon capitaine avait au moins 6 pieds de haut, alors que le capitaine Dreyfus était de petite taille. Enfin, il me rappela qu'en 1894, au début de l'affaire, les appareils de prise de vue n'étaient pas encore en circulation. Je dus avouer mon subterfuge et nous finîmes par rire tous les deux de la crédulité humaine. Alors l'exemple, dans l'exemple de Doublier, le commentaire aidait évidemment à produire le sens et le commentateur a été pendant longtemps dans le cinéma muet, ce qui donnait le sens pendant encore plus longtemps dans certains pays comme le Japon. Un autre trait commun au film de cette époque, un trait intéressant par rapport au cinéma actuel, c'est que très très souvent, dans la plupart des cas, comme vous allez le voir dans l'autre, les spectateurs étaient au courant du contexte et de l'événement. Ils n'avaient pas besoin d'exposition. Les films fonctionnaient par rapport à un public et par rapport à la connaissance de ce public. Ça peut se constater aussi bien dans des films de musical que dans des films documentaires ou dits documentaires comme celui-ci. Et par exemple, il y a un film très connu par la reprise qu'en a fait un cinéaste expérimental dans les années 60, un film de Billy Bitzer, donc qui travaillait pour Mutoscope, qui était le rival de Edison, qui s'appelle Tom Tom the Piper's Son. Et si vous voyez le film dans son état original, on n'y comprend rien. Il revenait au spectateur de se référer à la légende et à la chanson pour se retrouver dans l'histoire, dans la reconnaissance des personnages, etc. Ça existe aussi avec Jack and the Beanstalk, qui est un autre film de Porter, qui est une des premières féeries influencées par Méliès de cette époque. Donc ça, c'est un autre point. C'était le spectateur ayant une connaissance préalable de ce que nous voyons, de ce qu'il va voir. Le titre lui suffit. Donc l'exécution de Czolgosz non seulement était connue de tous, mais était applaudie. Et la haine pour Czolgosz était si grande qu'elle a violemment blessé le mouvement anarchiste, puisque Czolgosz se déclarait anarchiste. Bon, déjà il avait pas un nom très anglo-saxon. Donc Czolgosz, ça c'était quelque chose qui pouvait encourager la xénophobie courante aux États-Unis des immigrés à la deuxième, troisième génération. D'autre part, les anarchistes étaient ceux qui faisaient peur. Il y a dans les mémoires d'Edison quelques passages assez effarants qui ne sont pas à propos de Czolgosz. Il ne parle pas du tout de la production de films, mais il parle de son... Il parle du rôle éducatif du cinéma et il explique à quel point le cinéma pourrait avoir un rôle éducatif par rapport à l'analphabétisme des immigrés. Voilà, donc c'est dans une partie qui s'appelle « Guerre et paix », où il se présente comme un adversaire résolu de la violence, en disant qu'il n'a jamais inventé d'objet de violence, et que même pendant la guerre, il a rendu service à son pays en inventant des machines de défense et non pas d'offense. Et le chapitre 6 s'appelle « La lutte contre l'extrémisme ». Il ne faut pas perdre de vue que nous avons une immense proportion d'habitants d'origine étrangère. Ces gens-là ne lisent pas les journaux de langue anglaise, qui sont presque les seuls à publier les arguments contre les théories extrémistes. Pourquoi d'ailleurs ces hommes les liraient-ils ? Ils ignorent la langue et ils mettront des années à l'apprendre. Mais la plupart d'entre eux savent probablement lire un journal écrit en une langue quelconque. Et il n'y a pas tant de langues différentes que le gouvernement américain ne pourrait les utiliser aussi efficacement que le font les ouvriers et les propagandistes extrémistes. Cette vermine raconte chaque jour au lecteur ignorant qu'il est l'unique créateur de toute richesse et qu'on la lui vole constamment. Et bien entendu, le lecteur le croit. Expliquons-leur une bonne fois qu'on veut les mener par le bout du nez et on ne les verra plus se croiser les bras dans les ateliers. Donc ça, ce sont les mémoires d'Edison, publiées en français en 1948, mais en anglais, je pense, dans les années 20. Voilà. Il y a là, et là-dessus, on peut tout à fait rejoindre les hypothèses de Noël Birch. Il y a dans le film sur Czolgosz une propagande, enfin, il y a une intention idéologique assez nette qui est la dissuasion par la torture, par la vision du supplice adressée à des spectateurs qui sont à cette époque des spectateurs populaire. On est encore, à l'époque, on est encore, même avant le Nickelodeon, on est encore à une époque où le cinéma est quelque chose de très très bon marché, où il n'y a pas d'intertitre explicatif. Et donc tout le monde peut le voir, et c'est une des raisons d'ailleurs de son premier, de son premier succès. Donc, l'exécution de Czolgosz a été applaudie dans tout le pays et a porté un rude coup au mouvement anarchiste, d'autant plus qu'une de ses meilleures oratrices, Emma Goldman, a pris parti pour Czolgosz, qui avait apparemment assisté à un de ses discours, mais qui n'avait pas plus de rapport que ça avec le mouvement anarchiste. Et la haine suscitée par la défense imprimée en anglais par Emma Goldman a beaucoup nui au mouvement anarchiste, et elle a dû pratiquement renoncer à ses activités militantes pour se livrer à des activités humanitaires. Mais est-ce que c'est le premier film idéologique ? D'une part, pas du tout. D'une part, l'idéologie apparaissait dès les premiers programmes. Dès les premiers programmes de cinéma Edison, il y avait dans le premier programme, il y avait un petit sketch destiné à montrer la supériorité du drapeau américain. Et c'était quelque chose d'assez fréquent dans le cinéma. Ça prenait la forme de sketch, puisque la plupart des programmes comportaient un certain nombre de sketchs importés du musical, et des sketchs qui étaient des sketchs souvent ethniques, avec des, comme par exemple on disait Cohen et Kelly à Coney Island, et on voyait, au lieu de voir un personnage juif, on voyait deux Irlandais, etc. Donc l'aspect comédie ethnique, se moquant gentiment ou pas trop gentiment, mais enfin quelque chose qui n'était pas prise de cette manière-là par les spectateurs, faisait partie du spectacle. Et les sous-entendus idéologiques, s'il faut pas les surestimer, y étaient très très présents. Deuxièmement, l'aspect médiatique du cinéma, bon, ça c'est un phénomène intéressant que McKinley a été le premier président américain médiatique. Il y a eu des films, il y a eu évidemment le couronnement du tsar, il y avait des reconstitutions de couronnement, mais McKinley était le premier président médiatique, c'est-à-dire Edison essentiellement. McKinley était le candidat républicain, hein, contre Bryan, qui était le candidat démocrate. Edison, mais également son rival Mutoscope, ont filmé McKinley, ses discours de candidat, et les opérateurs Edison ont même filmé le discours de Buffalo, où McKinley a été assassiné et sont revenus tout penauds d'avoir raté évidemment le film de l'assassinat. Alors, il paraît que Pathé l'a aussitôt reconstitué et envoyé aux États-Unis. J'ai pas trouvé de confirmation de ça, de cette information qui est donnée par Charles Musser, qui est le meilleur et premier spécialiste de la production Edison et de la production dirigée par Edwin Porter. Donc Edison, les opérateurs Edison étaient très très nettement favorables à McKinley, et ils ont bien sûr pris parti pour lui. Donc ils ont filmé, donc ils ont aussitôt voulu filmer également cet assassinat qui était approuvé par une si grande majorité de la population. Alors, il y a encore deux autres aspects. On y arrive. On arrive un petit peu à ce thèmes qui sont que, comme on peut considérer que le film que la sortie des usines Lumière était le premier film publicitaire, puisque c'était un film pour, c'était un film qui montrait la sortie des usines appartenant à Lumière avec les employés qui appartenaient à Lumière dans une journée ensoleillée et dans une atmosphère assez détendue. Donc ça a permis de dire que c'était le premier film publicitaire. Il se trouve que l'exécution de Czolgosz est une publicité pour une des inventions dont Edison s'est le moins vanté par la suite, mais qui était néanmoins son invention, qui était la chaise électrique. Dans les années 1880, on commençait à se plaindre des ratages. La pendaison était donc le mode d'exécution officiel, et beaucoup de partisans, d'une part de l'abolition de la peine de mort, qui n'étaient pas très nombreux, mais aussi de partisans de la peine de mort, se plaignaient de l'inhumanité du supplice représenté par la pendaison, des pendaisons ratées, de la non-immédiateté de la mort. Et à ce moment-là, Edison a commencé à faire campagne pour une invention qu'il n'a pas faite lui, d'ailleurs, qu'il a achetée à un inventeur, comme ça lui arrivait assez fréquemment. Il a travaillé sur la chaise électrique, mais la chaise électrique représentait pour lui une manière de prouver la supériorité de du courant électrique dont il était l'industriel contre son rival Westinghouse. C'est-à-dire, Edison était partisan du courant continu et Westinghouse était partisan du courant alternatif. Les deux ont développé les différentes inventions en prouvant à chaque fois la supériorité de leur invention. Et Edison a avancé cette solution qui était la chaise électrique comme moyen indolore d'appliquer la peine de mort. Il y a eu un certain nombre d'expériences à West Orange, dans son laboratoire, enfin sa grotte magique, enfin puisqu'on l'appelait le magicien de West Orange. Il a fait des démonstrations où il invitait une presse triée sur le volet, démonstrations pendant lesquelles il a exécuté, alors bon là les chiffres évidemment varient, enfin il a exécuté, on dit des milliers, mais on peut penser probablement des dizaines ou peut-être des centaines de chats ou de chiens errants qu'il achetait aux écoliers pour 25 cents la pièce. Et après quoi, donc, il a pris ce brevet de la chaise électrique et il est arrivé à ce qu'en 1886, je crois, en 1888, voilà. Il expliquait que le courant alternatif était trop dangereux pour autre chose que le courant domestique. Et donc, c'est après ces démonstrations publiques, l'État de New York a, en 1888, passé une loi remplaçant la pendaison par l'électrocution. Et Edison avait reconnu entre-temps que le courant alternatif fonctionnait mieux et a préparés par du lobbying, à préparer son dessin de la chaise électrique. Donc la première chaise électrique a été installée précisément dans la prison d'Auburn, dans l'État de New York, que nous venons de voir. Et le premier condamné a été exécuté en 1890. L'exécution s'est d'ailleurs très très mal passée, comme c'est arrivé jusqu'à, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les dernières exécutions par chaise électrique. La dernière exécution par chaise électrique a dû être il y a une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'elle soit complètement remplacée par l'injection létale. Pendant une dizaine d'années, les condamnés avaient le choix entre l'injection létale et la chaise électrique, et la dernière s'est passée de manière assez terrible pour le condamné qui a commencé à prendre feu. Donc voilà, les Westinghouse de son côté, enfin il y a eu toute une campagne promotionnelle en quelque sorte, c'est-à-dire que Westinghouse a financé l'appel des condamnés pour que les condamnés soient graciés, tandis qu'Edison évidemment finançait une presse pro peine de mort. Mais le corps judiciaire a considéré que c'était le plus grand succès de notre époque, qu'il permettait malgré ses quelques ratés une exécution sans douleur. Bon, je ne vous renvoie pas ce post-scriptum à espèce de post-scriptum à la disparition des exécutions publiques décrites par Foucault dans le premier chapitre de Surveiller et punir, cette disparition progressive qui est arrivée en France en 1939, mais qui aux États-Unis était déjà, à partir en tout cas de l'utilisation de la chaise électrique, réservée à un certain nombre de témoins qui devraient précisément témoigner de la régularité de l'exécution, comme cet appel au regard du public, ce regard au public qui fait appel au public pour être témoin de cette exécution. Donc l'exécution a été reconstituée à partir de descriptions journalistiques, d'où le réalisme entre guillemets du film. En effet, les décors sont parfaitement reconnaissables, la frontalité de la caméra et le décor sont visibles, révèlent qu'il s'agit de décors peints, sur toile peinte. En revanche, une différence très très nette avec les autres films de fiction de l'époque, c'est la retenue dans le jeu. Il n'y a absolument rien de ce qu'on peut voir dans les films de 1901 et même dans les films de reconstitution documentaire de cette époque. Le jeu est un jeu d'expression excessive, de grands mouvements de bras, qui correspondait au jeu théâtral, mais qui l'accentuait au lieu de le retenir. Et il y a dans ce film quelque chose que, sans être un connaisseur exceptionnel des films de cette période, je n'ai pas vu jusque-là, même dans l'affaire Dreyfus de Méliès. Donc quelque chose, en particulier dans le mouvement du corps de la victime, les trois décharges électriques qui passent dans son corps sont représentées d'une manière extrêmement discrète par rapport à ce qu'on a pu voir ensuite dans des films de fiction qui ont d'ailleurs brisé ce tabou seulement vers la fin des années 50. Les licences dramatiques prise par le film, il y en a trois. Il y en a une qui est qu'il n'y avait pas de couloir. Il n'y avait pas de couloir de la mort. La cellule était directement attenante à la chambre d'exécution. La deuxième est que Czolgosz a parlé tout au long de la préparation de l'exécution, qu'il a voulu parler et que selon tous les témoins, il a parlé d'une manière parfaitement, selon tous les témoins, selon les comptes rendus journalistiques, il a parlé d'une manière parfaitement sensée, alors qu'on l'avait aussi présenté. On ne sait pas très bien si c'était un semi-débile ou non. En tout cas, il a dit qu'il ne regrettait pas son geste, il a dit qu'il regrettait de ne pas pouvoir revoir son père. Enfin bon, il n'a pas grogné, dit, et ses lèvres ne bougeaient presque pas, mais, sauf quand il a fait sa déclaration finale pour dire qu'il ne se repentait pas de son crime. Quand l'électricité est passée dans le corps de l'assassin, il s'est raidi par des sursauts successifs, mais la mort a été si rapide qu'il n'a pas eu le temps de gémir. En revanche, la grande licence dramatique, c'est que la tête des victimes d'exécution était couverte de manière à ce que seul le nez et la bouche soient exposés. Donc ça, licence dramatique, qui était évidemment une licence dramatique d'ordre commercial, bien sûr. Donc voilà, j'en ai un peu fini avec, pardon d'avoir été si long sur ce film, mais enfin bon, il y a plusieurs, ces différents aspects, l'aspect dissuasion auprès du public, l'aspect intérêt commercial de l'entreprise Edison à faire valoir une de ses inventions, et l'aspect documentaire fin ou documentaire reconstitué qui impliquait quand même un changement considérable dans la manière de traiter une fiction, me paraissaient trois points intéressants qui nous ramène à notre sujet du documentaire ou du documentaire n'existe pas. Et il y en a un quatrième qui était un des sujets que je voulais aborder aujourd'hui, qui était la raison pour laquelle j'ai donné à cette séance le titre Le sang des bêtes, qui est la représentation de la mort. La représentation de la mort dans le documentaire a été pendant très longtemps un tabou, et ce tabou a été violé de manière très très rare, et en revanche, il a pu être violé à travers le détour des animaux. Et Franju disait à propos de son premier film qu'il s'agissait d'un sujet exceptionnel et violent, qu'en hommage au sacrifice des animaux d'abattoir, j'appelais Le sang des bêtes. Donc c'est un hommage. Donc le titre Le sang des bêtes est un hommage à ces animaux victimes dont nous allons voir un exemple dans quelques instants. Il m'a semblé, et alors là aussi je demande à des spécialistes de la période de me contredire, mais il m'a semblé, en consultant les catalogues des pionniers, Lumière, Mutoscope devenu ensuite Biographe, et Edison, il m'a semblé que les sujets ayant pour trait la mort étaient plus fréquents dans le catalogue Edison que dans d'autres. Donc Edison, ou bien ses directeurs de studio, ses représentants, s'étaient aperçus qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait montrer au cinéma qu'en transgressant un tabou, et qui par conséquent avait une valeur commerciale supérieure. Alors dans le premier disque de d'un assez beau coffret de la production Edison, assez beau coffret DVD de la production Edison. On trouve par exemple un film d'avant 1900, donc un film qui n'est pas un film de Porter, qui est un film sans doute de White, qui était le directeur du studio, qui est l'exécution de Marie Stuart, reine d'Écosse. Et ce film est une vue unique, hein, comme les petites fictions faites par Lumière, qui en a fait une minorité, mais qui en a quand même fait. Et c'est un plan unique dans lequel donc on voit Marie Stuart jouée d'ailleurs par un homme s'avancer, mettre la tête sur le billot et par un arrêt à l'image assez réussi. Le bourreau abattre la hache et la tête tomber. Donc, sujet plutôt sanglant, dont le seul sujet est précisément de montrer une décapitation. Donc, ensuite, nous avons le... j'ai lu quelque part qu'il y avait un film d'Edison qui s'appelle Death by Hanging, mais ma source n'était pas très sûre. Donc, ce qui indiquerait également, ce qui confirmerait un petit peu cette hypothèse que je lance sans trop de sûreté, je ne demande qu'à être contredit. Et le deuxième film que nous allons montrer, dont le titre dit tout évidemment, c'est cette électrocution d'un éléphant de 1903. Donc 1903. 1903. Il y a l'histoire de cet éléphant qui est une histoire assez connue depuis, parce que le film ne doit son succès qu'à la ne doit précisément son succès qu'à la qu'au savoir du public qu'il s'agit d'une véritable exécution et non d'une exécution imitée de manière réaliste comme celle de Tcholgosch. Il s'agit donc d'un éléphant domestique, d'un éléphant de cirque, qui était à Coney Island et qui avait tué trois de ses gardiens, le troisième étant un gardien sadique qui apparemment avait tenté de lui faire manger une cigarette allumée. Donc je pense que le droit le plus absolu d'un éléphant captif, c'est de tuer de se débarrasser de ses geôliers. Toujours est-il que les propriétaires du cirque ont décidé de tuer l'animal, mais ont cherché un moyen de le tuer. Ce qui était assez difficile parce que des injections de poison n'y suffisaient pas. Et il se trouve, surprise, que c'est Edison qui leur a suggéré la solution de l'électrocution. Donc Edison leur a suggéré simultanément la solution de l'électrocution et de filmer cette électrocution pour en faire un film qu'il allait diffuser et que nous allons voir immédiatement. Voilà, je vous demande, c'est le seul film que je montre avec un peu d'embarras, mais néanmoins, il permet peut-être d'avancer. Voilà, donc là, il ne s'agit plus d'exclure du châtiment la mise en scène de la souffrance, mais au contraire de montrer précisément les soubresauts de l'animal, qui est quelque chose qui est impossible de montrer chez l'homme, et les animaux fonctionnant comme métaphore pour les hommes. Il y a En 1903, oui, on n'est pas loin du moment où ont été prises, 1905, les célèbres photos de supplices chinois qui ont été publiées dans les années 20 par Bataille. Et le fait découvert, je crois, récemment que ces photos aient été prises en stéréoscopie indique bien l'aspect obscène de cette prise de vue, la double image de la stéréoscopie exigeant une vision et un plaisir solitaire qui indique leur caractère, qui est un autre versant de la pornographie qui est souvent évidemment lié à l'exotisme. Et en fait, dans un des textes qui ont traité de cette question, un texte évidemment d'André Bazin que vous connaissez sans doute, mais qui, de manière assez scandaleuse, n'a pas été repris dans l'édition en un volume de Qu'est-ce que le cinéma ? Bazin, lui aussi, parle de cette représentation, cette fois filmée, de la mort à laquelle il avait assisté, dans les actualités. On a pu voir au printemps 1949, dans un journal d'actualité, un hallucinant document sur la répression anticommuniste à Shanghai, des espions rouges exécutés à coups de revolver sur la place publique. À la commande, à chaque séance, ces hommes étaient de nouveau vivants. La chiquenaude de la même balle secouait leur nuque. Et Bazin conclut, grâce au film, on peut violer aujourd'hui et exposer à volonté le seul de nos biens temporellement inaliénables. J'imagine la suprême perversion cinématographique comme étant la projection d'une exécution à l'envers, ainsi que dans ces actualités burlesques où l'on voit le plongeur jaillir de l'eau vers son tremplin. Donc il y avait dans ces films, en particulier dans le premier, à la fois quelque chose qui se retourne vers le spectateur, moins dans le second, ce n'est pas le cas bien sûr, puisqu'en fait le second film a été l'exécution d'autopsie de l'éléphant s'est produite devant 1500 spectateurs. Donc il ne s'agit pas d'une exécution privée comme celle des hommes, c'était une exécution publique comme l'étaient encore les exécutions publiques françaises qui ont été filmées jusqu'en 1939, mais qui ont été filmées apparemment par des opérateurs d'actualité, pas par des opérateurs de la justice, mais pas pour diffusion. Certaines de ces exécutions se trouvent dans les collections de la Cinémathèque française. Donc, c'est... Donc, j'en étais, oui, à cette, ce commentaire de Bazin qui est de 49 et qui est de 49-51. L'article concerne le film de Myriam et Pierre Braunberger, La course de taureaux, et s'appelle Mort tous les après-midi. Donc le sujet est précisément la mort au cinéma, la mort comme seul instant unique de la vie, seul instant irrépétible de la vie que le cinéma se permet de violer. D'où cette conclusion de Bazin que je préférerais vous laisser lire, retrouver en bibliothèque par vous-même. Mais c'est mais le texte est de 49-51. Donc dans une époque où on est donc dans l'après-guerre, dans l'après-découverte des horreurs et des actualités de guerre et de l'ouverture des camps, où on ne voit pas de moment de mort, mais où on voit des cadavres, et on voit le caractère de masse des cadavres, et on peut penser qu'il y a là un changement radical et dans la réflexion sur le cinéma et dans le cinéma. Vous connaissez, je suppose, vous vous souvenez sans doute de ces phrases qu'il y a dans Le sang des bêtes, et il est difficile de penser que ces phrases écrites par Jean Pinlevé, résistant, n'ont pas d'autre écho que celle du film même. Les moutons suivent comme des hommes, ils bêlent comme chantent les otages, en sachant que ça ne sert à rien. Et le film se termine, les derniers mots du film sont « Le petit train qui s'en ira à la tombée de la nuit, chercher dans les campagnes les victimes du lendemain ». Donc même si nous ne montrons pas le sang des bêtes, c'est un moment où quelque chose change probablement dans le cinéma, change certainement, il y a un tournant aussi dans la pensée de Bazin, et cette pensée est en dialogue constant avec ce changement du cinéma qui est représenté idéalement pour lui, comme pour ses contemporains, comme l'historien Georges Sadoul et d'autres, par l'école néoréaliste, et qui concerne également des cinéastes qui ne sont pas néoréalistes, puisque cette garantie de continuité que donnait le film par un fondu enchaîné le film de Porter, cette garantie de continuité, on la retrouve également au moment où Alfred Hitchcock se voit demander par un de ses vieux amis anglais, Lord Bernstein, de superviser le montage d'un film sur l'ouverture des camps, le film donc supervisé mais non réalisé par Hitchcock. A été diffusé beaucoup plus récemment et en France sous le titre « La mémoire meurtrie ». Et le témoignage de Lord Bernstein, qui a été recueilli à ce moment-là, donnait comme principale instruction donnée par Hitchcock au monteur de privilégier les plans où on pouvait, par un panoramique, relier le paysage environnant et la présence du camp de concentration. Ça a été, semble-t-il, sa première exigence. On peut, à partir de là, développer, mais ce ne serait pas le sujet, quelques questionnements sur, d'une part, la résurgence du cinéma de montage pendant la guerre, et d'autre part, la réapparition du plan long, voire du plan séquence, dans l'après-guerre, réapparition qui a été essentiellement, d'ailleurs, commenté par Bazin, avant tout, à propos aussi bien des films de Wyler que des films d'Orson Welles. Moins à propos des films de Hitchcock, qui à cette époque a tourné des films en plan séquence. Mais là, on s'éloigne, hélas, de notre sujet. Et ce moment de la mort, ce moment de la mort, aidé par le commentaire de Bazin, j'avais envie de le montrer d'une toute autre façon, tel qu'il a été montré par un cinéaste néo-réaliste, non pas Rossellini, qui lui s'est colté assez souvent avec la mort, voire avec la torture, dans ses films de fiction, J'ai pensé donc, bon, vous le savez puisque c'est dans le programme, mais j'ai pensé à un cinéaste qui était un cinéaste de fiction et même, pourrait-on dire, ce terme qui est de moins en moins utilisé, un metteur en scène de cinéma, donc Luchino Visconti, qui n'est pas un cinéaste de documentaire, qui n'a rien d'un cinéaste de documentaire, qui a mis son nom ou pas, ou qui ne l'a pas mis d'ailleurs, mais enfin, à qui on doit trois films qu'on peut qualifier de films, en tout cas de non-fiction. Le premier est intéressant pour notre sujet. Le premier est intéressant pour notre sujet puisqu'il s'agit, Visconti avait participé à la résistance, a été arrêté en 1944, a été libéré avec la libération de Rome et a filmé pour un film sur la libération de Rome, Journey di Gloria, Jour de gloire, a filmé plusieurs séquences qui ont à voir avec la mort, l'ouverture des fosses ardéatines où les nazis avaient exécuté des otages et ensuite bloqué l'entrée de ces grottes. Il a filmé ensuite le procès du préfet de Rome, Pietro Cor, qui était le responsable de son arrestation. Et il a filmé enfin, juste à la suite, le lynchage et le procès de Caruso et Cor, donc deux des fascistes qui avaient été les plus actifs dans la répression, qui avaient collaboré directement avec les SS, et le lynchage de Caretta, qui était un troisième de ces fascistes italiens. Donc il a filmé un lynchage, le moment d'une véritable mort d'un lynchage par la foule d'un préfet de Rome, et ainsi que l'exécution de Caruso et de Koch, l'exécution par fusillade de Caruso et de Koch. Donc il avait filmé ces moments de mort. C'est pas le lieu de dire que beaucoup des films de Visconti se dirigent vers la mort, ne serait-ce que pour citer le dernier, L'Innocent, qui parle aussi de la mort d'un enfant, comme dans le documentaire qu'on va voir. Donc ce documentaire, Jour de gloire, a été monté par le monteur régulier de la plupart des films de Visconti jusqu'à un certain moment. Donc ce n'est pas un film de lui. Et ensuite, il a signé, on ne sait pas trop pourquoi, un film qui s'appelle « À la recherche de Tadzio », qui est un film assez beau d'ailleurs, sur les repérages à la recherche de l'interprète du rôle de Tadzio dans « La mort à Venise », mais qui est de toute évidence filmé par une équipe caméra qui le suivait, sur lequel il a sans doute donné quelques renseignements, quelques instructions de montage, mais à l'intérieur duquel on le voit tout le temps. Donc on va voir ce documentaire qu'il a tourné dans des circonstances assez particulières. On va le voir tout de suite. Quelques explications, je vois qu'il est tard déjà. Quelques explications sur ce film, après je serai très bref sur les deux derniers. Mais je pense que celui-ci mérite des explications et sur son contexte et sur ce qu'il est. Il s'agit donc, vous avez vu, d'un documento mensile était une tentative de contre-information culturelle. Bon, dans les actualités italiennes étant dominées en 1950 par la démocratie chrétienne, deux jeunes gens de Milan, donc Riccardo Ghione et Marco Ferreri, sont allés voir un certain nombre d'intellectuels, de réalisateurs, de non-réalisateurs, d'artistes, etc. Ils leur ont demandé de participer à une sorte de revue culturelle filmée qui serait dans laquelle ils pourraient intervenir de manière satirique, poétique, documentaire, de manière de notes, etc. Les notes venaient de leur propre proposition. L'intitulé Appunti, note, qu'on pourrait bien entendu rapprocher de ce de de la pratique de Pasolini, plus tard, de faire des films inachevés, des repérages pour, notes pour, etc. Je pense que là, il faut beaucoup plus le prendre dans un sens littéraire qui ne correspond pas. L'idée des notes ou du repérage ne correspondant pas du tout à Visconti. C'est pour ça que je pense que la recherche de Tadzio n'est vraiment pas un film de lui. Et donc il y a eu deux éditions de ce Documento Mensile, de cette revue, qui comportait chacune deux épisodes pour faire 8 minutes. 8 minutes, c'était la durée minimale pour avoir droit aux primes à la qualité qui permettait au film de sortir en salle. Les films ne sont jamais... Et 4 sont conservés aujourd'hui. Il doit y en avoir eu 6 réalisés. 4 sont conservés, dont un de De Sica, un d'Antonioni et un de Moravia, plus celui de Visconti. Donc ce sont des films de 4 minutes et demie. Je pense que le programme allongeait un peu le film. Peut-être qu'avec le générique, la restauration, etc., on arrivait à 6 minutes. Et une contre-information qui a été un bide total, c'est-à-dire que le film n'a absolument pas été montré en France, n'a pas été montré en Italie, sauf peut-être dans quelques ciné-clubs de Milan. Alors, le film est sorti en France, je n'ai pas trouvé trace de critique de l'époque, et j'ai un vague souvenir d'avoir lu un texte de Bazin où il parlait d'un autre film du même groupe, du film de Sica sur le choix des personnages du voleur de bicyclette. Mais je m'en souviens pas très bien. Et je ne sais pas si Bazin a vu ce film ou non. Toujours est-il qu'il me paraît complètement dans le droit fil de l'idée néo-réaliste et de cette question de que peut-on faire, comment peut-on montrer la mort. Bien entendu, alors le sujet a été immédiatement choisi par Visconti, c'était un fait divers dont tout le monde parlait, donc là encore il se trouve, pas pour les mêmes raisons bien entendu, mais qu'on s'adresse à un public informé, c'était un fait divers qui avait fait les unes de journaux. Le choix de Visconti a été immédiat. La première fois qu'il a rencontré donc le producteur, ce jeune homme, il l'a immédiatement emmené à Primavalle où il lui a montré les endroits qu'il avait choisis. Il avait donné rendez-vous à son opérateur et il a obtenu pour ces films pour lesquels il n'y avait absolument pas d'argent. Et information paradoxale par rapport à ce qu'est le film, il a exigé un tournage en son direct. Or, le tournage en son direct en Italie existait déjà à peine en studio et à plus forte raison était extrêmement lourd, difficile en extérieur. Donc il y a dans le film une approche documentaire, une mise en scène documentaire évidente et en même temps un point de vue. Il y a un point de vue documentaire, même s'il y a mise en scène. Il y a une exigence, par exemple, à l'opérateur de refuser complètement les ciels style Figueroa, qui était une des détestations de Visconti. Figueroa était cet opérateur mexicain qui faisait des films qui avaient des prix dans les festivals parce que le ciel, il y avait des ciels très noirs avec des nuages très blancs. C'était très très impressionnant et ça a été tout un style pendant cette période, mais qui a perduré. Il avait donc un type d'exigence. Il lui a demandé en revanche de dégrader pour avoir constamment un ciel d'un certain gris, un sol quasiment plus clair que le ciel. Et donc la volonté de style est évidente, même les indications données hors champ aux figurants sont assez claires aussi dans les plans plus ou moins rapprochés. Il n'empêche que c'est ce que je trouve de plus proche, sans doute, de ce qu'on pourrait appeler un documentaire ou une décision documentaire. Il faut rappeler aussi, j'avais oublié de le rappeler, que le premier projet pour La Terre tremble était un projet documentaire. Le premier projet qui a été soumis pour financement pour La Terre tremble était un projet documentaire, et qu'en arrivant en Sicile, Visconti s'est retourné vers le roman de Vergale et Malavoglia qu'il avait envie depuis très longtemps d'adapter, et est arrivé à cette paraphrase moderne du roman de Verga. Comment montrer la mort là? Par le vide, c'est par l'absence. Ça peut aussi être, c'est devenu aussi une manière artistique et chic de le faire dans les derniers temps. Ça peut aussi, ça peut aussi, toute solution formelle peut devenir procédé et peut devenir quelque chose qui comporte sa propre malhonnêteté. Dans le cas Visconti, je pense qu'on est dans une première tentative de cet ordre. C'est un film qui me fait penser, c'est encore un de ces rapprochements absurdes que je me permets parce que je suis assis là et que vous êtes assis là. C'est un film qui a été qualifié par Daniel Huillet d'exemplaire. Et j'ai un peu de mal à ne pas penser au film que Straub et Huillet ont fait sur les deux garçons qui ont été électrocutés, pourchassés par la police et qui ont été électrocutés dans une centrale. Film composé d'un panoramique cinq fois répété qui s'appelle, je crois, 27 octobre, qui est une sorte de ciné-tract. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une continuité basinienne, à la fois basinienne, néo-réaliste, militante, puisque ça s'appelle un ciné-tract. C'est une hypothèse qui en vaut une autre. La présence de Visconti, d'ailleurs, a suffi à couper court à toute production, continuation du documentomancy. Le directeur du spectacle, enfin l'équivalent du ministre de la Culture italien, a téléphoné à Riccardo Ghione, qui était le fils d'un chef d'orchestre connu, en lui disant « Comment pouvez-vous travailler avec ce Visconti? Vous ne vous rendez pas compte, vous qui êtes un gentil garçon ?» Et l'affaire ne s'est même pas arrêtée là, puisque Visconti avait décidé, 8 minutes étant la limite inférieure pour un court-métrage, Visconti avait décidé de monter le film en 8 minutes, de faire une version longue du film en 8 minutes, ce qu'attestent aussi bien Ghione que Franco Manino, le compositeur. Et le film, donc il a monté un film de 8 minutes et le film a été refusé par la commission de contrôle, non pas de contrôle de censure, mais de contrôle à la qualité, enfin l'équivalent des primes à la qualité qui permettent à un court-métrage de sortir avec un long-métrage. Donc cette version de 8 minutes a très, selon toute probabilité, été détruite. Positif comme négatif, celle-ci en revanche, après sortie à Paris, a été retrouvée et restaurée, comme vous avez vu encore dans les dernières années, de la vie de Marco Ferreri, qui en était le producteur. Voilà, donc bon, pour terminer là-dessus, je dirais simplement que il a fallu un certain temps pour que le documentaire arrive à cette obscénité ultime de montrer la mort, que ça a été au début des années 60 avec des documentaires qui étaient ouvertement des documentaires à scandale, avec un documentaire de Gualtiero Jacopetti qui avait fait Mondo Cane, qui s'appelle Africa Addio et qui est un tournage qui est un film sur la décolonisation en Afrique et un film contre, c'est un film de droite, c'est assez intéressant aussi que ça soit ce point de vue là et qui montre des exécutions, qui montre des massacres d'animaux réels, eux, et des exécutions prétendues réelles à l'époque, des exécutions humaines réelles survenues en Afrique pour prouver les désastres de la colonisation. Donc ce film a été l'objet de polémiques très très vives. Plusieurs films ont été faits en réponse au film. On n'a jamais vraiment su s'il y avait des plans d'exécution réels ou si toutes ces exécutions étaient simulées. En tout cas, c'est ce qui a donné le point de départ à ce qui a été ensuite, appelé le snuff movie, les films clandestins, au même titre que les films pornographiques, dont je n'ai pas parlé, mais qui existent depuis les débuts du cinéma, mais qui n'ont pas de diffusion. Ce qui m'intéresse, ce sont les films avec, qui ont des spectateurs et leur relation avec le spectateur. Donc le film de Jacopetti, la légende a couru, enfin l'histoire qu'on racontait, c'était que Jacopetti et son équipe avaient demandé que des exécutions aient lieu après le lever du jour pour pouvoir les filmer. Ils disaient, mais vous faites les exécutions à l'aube, nous on n'a pas assez de lumière, alors si vous vouliez bien reporter les exécutions au petit jour, ça nous arrangerait bien. Malheureusement, il se trouve que cette histoire avait également été racontée par Raoul Walsh quand il avait tourné avec Pancho Villa en 1908, et que là, on sait que l'histoire n'est pas vraie, puisque Walsh, quand il a tourné avec Villa, n'a pratiquement pas rencontré Pancho Villa. Donc voilà ce qui fait partie des légendes qui circulent en boucle sur le cinéma. Donc voilà le cinéaste de droite, malheureux. Bon. Et Walsh, d'ailleurs, ne reprend pas ce bobard dans ses mémoires. Donc à partir de là, il y a le snuff movie, évidemment. Mais essentiellement, on peut dire que c'est la télévision qui hérite du cinéma, du rôle de moyen d'information majeur. Et on est aussi dans la période de la guerre du Vietnam. Et que le pas est sans doute franchi quand on voit à Saigon ce général Lohan appuyer le canon sur la tête d'un prisonnier communiste et tirer. Image qui a été photographiée et filmée et qui a été diffusée dans le monde entier, qui a contribué d'ailleurs pour beaucoup au retournement de l'opinion publique aux États-Unis, mais ce sont surtout les images des soldats américains qui ont pu contribuer à ce retournement à la fin de la guerre, mais qui a contribué aussi à l'idée que la télévision peut tout montrer et doit tout montrer, qu'il n'y a pratiquement pas de tabou. Bon, avec la diffusion fragmentaire du procès sommaire et de l'exécution des époux Ceausescu, on est passé à l'idée qu'il y a une caméra sur chacun, que tout le monde peut montrer n'importe quoi. Et on est arrivé à l'idée du téléphone qui filme, donc les tortures d'Abu Ghraib et l'exécution de Saddam Hussein, qui, elles, n'ont quand même pas été montrées, mais qu'on peut trouver sur Internet ayant des sites spécialement consacrés aux exécutions, à la mort, etc., sur lesquels je n'ai pas eu l'envie d'aller chercher, mais si vous êtes curieux de chercher davantage, vous n'aurez pas de mal à trouver. Ça reste de même que les images stéréoscopiques des tortures chinoises, ça reste un plaisir solitaire d'aller sur YouTube ou d'aller sur ces sites, mais c'est un plaisir solitaire qui fait retour dans le documentaire à grand public. Et là encore, je m'excuse de parler d'un film dont j'ai parlé l'an dernier et qui ne le mérite pas, enfin du documentaire à très grande audience qui s'appelle Apocalypse, documentaire à sensation en trois épisodes de 2 heures ou en 6 épisodes passés en 2 soirées, sur lequel je ne m'arrêterai pas plus que sur Africa Addio, puisqu'il a le même, il procède selon la même démarche de truquer tout le matériau filmé pour soutenir un commentaire incessant. S'il n'avait pas été salué par la presse et par un historien, au moins une historienne en l'espèce, comme, je cite, un changement de regard radical sur la Deuxième Guerre mondiale. Or, le principe de l'épisode que j'ai vu les 2 heures centrales, donc qui commençaient par la campagne, par l'invasion nazie de la Russie, et pendant toute cette première heure sur la Russie, la complaisance dans la description de morts et de cadavres que les réalisateurs, grâce à leur grand réseau d'archives, avaient pu trouver dans des actualités non montrées à l'époque, dans des archives jusque-là fermées, leur ont permis de trouver des images d'horreur qui ne manquaient déjà pas dans les actualités officielles. Et il est très frappant, en regardant cet épisode, d'ailleurs également colorisé, d'une part, la guerre est filmée comme si chaque soldat avait son téléphone portable avec lequel le montage et le choix des images, enfin le montage donc, est organisé en sorte qu'on ait l'impression que chaque cinéaste, que chaque soldat a sa petite caméra ou son portable, comme les soldats américains au camp d'Abu Ghraib, et filme ce qu'il a en face de lui. Et d'autre part, l'autre élément frappant, c'est l'insistance voyeuriste sur les cadavres et sur les instants de mort que les réalisateurs ont pu trouver, instants de mort qui sont presque immanquablement grossis à l'image, où il y a un recadrage presque systématique pour se rapprocher de ces moments. Donc on peut peut-être dire, avec le succès immense reconnu par une historienne des sciences et de la communication au CNRS dans Libération du 9 octobre, que c'est peut-être, alors pour citer André Labarthe, mais pas de la manière dont il l'entendait, c'est peut-être là la fin de la parenthèse Lumière, qui n'aurait été qu'une parenthèse dans la grande victoire d'Edison. Voilà. Donc, je suis allé un peu lentement. Et le film de Chris Marker que je vais vous montrer n'a pas besoin de commentaires. Ce n'est pas un de ces films, considérés comme majeur. Il est très peu commenté. C'est un film d'une expérience. Il se rattache un peu au film de Visconti parce que c'est une tentative de contre-information. Il dit, à mon avis, à peu près ce qu'il a à dire sur cette expérience de contre-information et sur la fragilité et la nécessité de ces informations. Et après, si vous n'en avez pas vraiment marre, je dirais deux mots sur le film qui, à mon avis, est le film jumeau du 20h dans les camps et que nous passerons tout de suite après. Voilà. Donc le film le plus long de cette soirée, le 20h dans les camps, qui doit faire 27 minutes. Après quoi, le dernier film durera 4 minutes 10 et j'espère qu'il y aura un petit peu de temps pour des questions, pour que nous bavardions un peu. Suivant, d'une part, il faut préciser que Marker a fait un certain nombre de films sur la guerre de Yougoslavie, donc ce n'est qu'un épisode. Et d'autre part, je tenais à présenter le deuxième film pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il a été tourné pendant le même tournage. D'autre part, parce que il me semble que des deux, le film de guerre n'est pas forcément celui qu'on pense. Donc on revient à nos durées habituelles, celui-là fait dans les 4 minutes 10. Après, si vous voulez bien prendre le temps, on peut parler un peu. Je crois qu'on a le temps de parler s'il y a des interventions. J'ai un peu trop parlé. Mais je crois qu'il y a un micro qui se promène. Ah ben oui, voilà. Donc, à vous, là, j'ai la lumière un peu dans l'œil. Donc je vois pas très bien, mais... Sinon, je dirais en deux mots, en attendant quelque chose, je dirais en deux mots que la Bon, d'une part, il y a un très beau texte qui m'évitera de parler plus longtemps sur ce film, qui est un texte de Jean-André Fieschi dans un livre publié par le Centre qui s'appelle, le livre s'appelle L'animal écran. Et dans le texte de Jean-André Fieschi, il parle assez longuement et de manière, me semble-t-il, très, très, très pertinente du film, enfin, film dont moi je suis jamais vraiment, vraiment venu à bout. Je l'ai pas mal présenté. À chaque fois, j'en ai eu des interprétations différentes et je les pense assez. Toutes sans doute légitimes, et l'énigme subsiste quand même, qui est bon, l'énigme aussi bien de ce qui peut se passer entre le cinéaste et la personne qu'il filme, ce qui peut se passer dans ce qui est traduit par le regard caméra, et puis ce qui peut y avoir à la fois dans le ce qu'il peut y avoir d'inexplicable ou de difficilement explicable dans la démarche de l'éléphant, est-elle déterminée par la conscience de l'individu en face de lui, ou par la guerre, ou par les deux, ou par encore autre chose? Et troisièmement, le fait que ce film de bon, cette chose un non scindable qui est un plan séquence n'est évidemment pas un objet pur, puisque y arrive immédiatement, puisqu'il est adjoint immédiatement le tango de Stravinsky, qui lui donne également une autre dimension possible, ou un autre pas un sens d'ailleurs, mais une autre lui fait dire peut-être autre chose. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce film, et donc moi je m'arrête là, et si vous voulez vous en tenir là également, je vous remercie. La prochaine fois, deux films qui sont des films sur l'idée si l'histoire était partie dans une autre direction, ce qu'on appelle l'uchronie dans le langage de la science-fiction. Voilà. Pas de questions. Merci. Bonsoir.